Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Daniel Ferré, maire adjoint de Mortagne-au-Perche. C'est en me promenant dans les jardins de la mairie de cette ville que j'ai rencontré Daniel Ferré. Elle m'a proposé une promenade dans la ville. Alors, chers auditeurs, suivons-la. Daniel Ferré, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, justement, j'aimerais bien que nous nous promenions dans Mortagne et je sais qu'il y a des hôtels particuliers absolument superbes. Si vous voulez bien, faites-nous visiter ces hôtels particuliers.
Effectivement, Mortagne a un très beau patrimoine hérité de son passé.
Combien d'hôtels particuliers dans Mortagne ?
On compte environ une quinzaine d'hôtels particuliers qui attirent le regard, bien sûr, mais il ne faut jamais oublier la petite maison toute simple, bâtie avec des beaux matériaux et bâtie aussi avec beaucoup de savoir-faire. Et c'est cet ensemble de maisons de qualité et d'hôtels particuliers qui font le charme de Mortagne. À mon sens, ce bâti est assez exceptionnel parce qu'il est homogène.
Oui. Là, je dois dire que quand on se promène dans Mortagne, c'est un vrai bonheur.
J'espère que les personnes qui s'aventurent dans la ville, et il faut s'aventurer à pied pour vraiment bien apprécier cette ville.
Oui, d'ailleurs, il y a des petites rues très amusantes qu'on ne peut absolument pas franchir avec une voiture. Il faut vraiment laisser sa voiture au parking.
Exactement. Et je conseillerais aux visiteurs de laisser sa voiture au parking Montcacune, c'est-à-dire devant le jardin public, d'où l'on a un panorama absolument sublime de la campagne percheronne. Vous avez dans le lointain la forêt de Belém,
oui.
Et ensuite un paysage ondulé qui rappelle toutes les collines du Perche traditionnel. Je crois que partir de cet endroit donne une bonne idée de l'ensemble de la ville. On traverse le jardin public.
Alors justement, traversons ce jardin public, mais s'arrêtant un petit peu, parce qu'il y a quand même des très belles choses.
Ce jardin public qui est ordonnancé sur un modèle de jardin français, vous avez une statue qui domine l'ensemble, c'est la statue d'Emmanuel Frémier, qui rend hommage à la fois au cheval et à l'agriculture. Puisque nous avons Cérès qui chevauche Neptune, métamorphosé en cheval, selon l'inspiration d'Ovid et de ses métamorphoses. Alors je passe pour le cheval de Frémier, et il ne faut pas oublier également la statue de Jules Chapelain, qui était un grand médailleur et qui a travaillé aux médailles de Paris à la fin du 19e siècle et qui avait une très très grande notoriété.
Là on voit la mairie sous son plus bel aspect, parce que c'est au plein sud à ce moment-là,
oui.
Et donc la vue de la mairie est très belle là.
Alors c'est un ancien hôtel particulier qui appartenait à la famille Chrétien de Galais, un hôtel du 18e et qui en a tout à fait les caractéristiques avec les symétries traditionnelles. Et à l'intérieur, il y a encore de beaux ensembles, notamment le bureau du maire qui sert également de salle de mariage où vous avez des très très belles boiseries aujourd'hui restaurées. Un parquet Versailles et des glaces et des moulures d'époque.
Sortons de la mairie, nous avons en face la Halle aux Grains et maintenant on peut en dire quelques mots.
Alors la Halle aux Grains est on franchit des siècles en quelque sorte, puisque entre la mairie qui est installée là depuis 1830 environ, eh bien la vue de Mortagne, l'ensemble de la ville a été très très modifiée après les événements révolutionnaires. Alors, toujours par rapport à la mairie, vous aviez sur cette place où nous nous trouvons désormais, vous aviez une toute petite mairie qui avait été construite. Et elle s'est très vite trouvée trop petite, donc on l'a déplacée dans l'hôtel particulier que nous venons de visiter. En revanche, dans ces années-là, il fut construit une halle au grain dans un style très néoclassique, imité du style antique en quelque sorte, avec des grandes ouvertures, un déambulatoire en quelque sorte. Et c'était pour encourager et développer le commerce des céréales et le commerce des toiles. Vous savez que Mortagne était très célèbre pour ses toiles de jute, les fameuses Mortagnes, et le commerce étant de plus en plus important, eh bien, il était nécessaire de donner des outils tout à fait adaptés pour soutenir cette industrie, ces manufactures.
Alors cette halle que, chers auditeurs, vous pourrez visiter est devenue une superbe médiathèque.
Exactement. Il a été choisi d'occuper cette halle et d'en faire une médiathèque, donc de la réhabiliter et de lui donner un sens et un destin.
Voilà. Alors sur cette place, il y a aussi un cadran solaire.
Alors Mortagne, effectivement, se caractérise par de nombreux cadrans solaires. On compte à environ 27 cadrans solaires dans
ah,
la ville.
Oui.
Parce que beaucoup d'hôtels particuliers ont leur propre cadran solaire. On peut dire que l'heure, jusqu'au 19e siècle, en quelque sorte, a été particulier à chaque demeure, puisque c'est basé sur le soleil et l'ombre du soleil. Mmh. Et les fabricants de cadrans solaires avaient une connaissance très pointue de la fabrication et de cet art très particulier.
Donc, ils allaient aussi en fabriquer aux alentours ?
Je pense,
Ah
oui.
Ah oui, ça je ne savais pas.
Et Mortagne en a quand même encore de
nombreux.
On va
peut-être en découvrir au cours de notre promenade.
Je pense.
Très bien. Alors, nous vous suivons.
Ces hôtels particuliers, quelles que soient les rues que vous empruntez, vous en découvrirez. Et c'est ce qui donne un charme très, très distinctif à la ville, parce qu'ils sont tous avec une structure identique, c'est-à-dire des bâtisses importantes, précédées de courts pavés, enserrées de hauts murs. Les hauts murs ne sont pas toujours d'époque, mais avec le temps, les hôtels particuliers se sont protégés des incursions plus ou moins malveillantes, et de nos jours, la plupart sont entourés ou ceinturés de hauts murs avec des portails, soit en bois, soit des grilles en fer forgé. Donc ça donne tout de suite une certaine élégance, un certain statut. Et ces hôtels particuliers donnent également sur de très beaux parcs qui ont été plantés à l'origine avec les essences du pays. Mais à partir du 19e siècle, et on a introduit
avec les voyages.
Voilà. On a introduit des nouvelles essences et on peut dire que ce patrimoine floral est tout à fait exceptionnel. On ne le regarde pas assez et on ne le défend pas assez.
Mais là, je crois que maintenant, on va regarder mieux. Effectivement, vous avez raison de souligner cela. Et alors, par quel hôtel particulier voulez-vous que nous commencions ?
Eh bien, je vais vous en signaler deux. Le plus bel hôtel particulier, c'est l'hôtel du Roosevelt Détail, c'est-à dire...
Détail, voilà, expliquez rapidement pourquoi Détail.
Alors, Détail, parce que c'est un hôtel qui a été construit par la famille Ocard de Montfermeil, et qui était le Roosevelt de cet impôt, Détail. Mais il pouvait y avoir aussi à Mortagne beaucoup d'autres receveurs des impôts. Hein. C'était une ville qui était spécialisée dans l'administration, en quelque sorte. Et cet hôtel est le plus beau. Il est resté dans la même famille pendant très, très longtemps. Donc, les parties anciennes ont été remarquablement conservées. Et vous avez là encore une architecture 18e avec un style rocaille assez développé et au centre une belle porte d'entrée surmontée d'un cadran solaire remarquable.
Oui. Et alors une cour pavée, quand on entre, une jolie cour pavée qui fait face.
Oui, avec notamment aussi un arbre magnifique, un catalpa qui a été planté il n'y a pas très très longtemps, pour remplacer un ancien catalpa qui commençait à être trop vieux en quelque sorte. Et dans cette cour, vous avez quelques dépendances qui maintenant sont réservées à une maison d'hôte.
Donc, nos auditeurs qui voudraient voir cet hôtel détail peuvent très bien y séjourner puisque il y a une maison d'hôte là, effectivement. Malheureusement, je trouve que le jardin n'est pas à la mesure de l'hôtel.
Alors, c'est vrai que ce jardin est un peu diminué et il faut se dire que la plupart des parcs qui desservaient les hôtels particuliers de la ville ont été souvent tronçonnés, rapetissés, et l'hôtel détail en est un exemple. Vous avez sans doute ici la survivance d'un tiers du parc et maintenant on parle plus de jardin que de parc.
Alors,
Un deuxième serait à regarder rue Sainte-Croix, l'hôtel particulier Fouteau du Tertre, qui est sans doute le plus élégant de tous les hôtels particuliers de Mortagne. Il n'est pas très grand, il est très très bien proportionné, et ce qui fait sa spécificité, c'est sa façade galbée, qui est très très élégante. Alors, une façade galbée avec un toit en deux parties, qui lui encore a énormément de style et est extrêmement bien.
Et en plus, il est en restauration, donc ce sera certainement magnifique quand il aura retrouvé ses belles couleurs. Parce que là, il est un peu triste.
Oui.
Mais je pense que ce sera... Dans combien de temps
Je pense que pour les journées du patrimoine l'année prochaine, on peut espérer le voir terminé sur le plan extérieur.
Oui.
Alors, c'est un hôtel particulier qui était tombé en déshérence pour des raisons de transmission.
D'héritage, oui.
Oui. Et là, il vient d'être racheté et il va être réhabilité selon les lois les plus sévères de la restauration. Et pour cela, la ville ne peut que se réjouir de revoir l'un de ses fleurons reprendre vie et se parer de nouveau de tous ses fastes.
Alors, il y a aussi la Maison des Comtes du Perche.
La Maison des Comtes du Perche,
qui est très jolie aussi.
Qui est très jolie, qui nous permet de découvrir à ce moment-là l'ancienne ville close et nous fait changer d'époque en quelque sorte.
Oui, là c'est vraiment... Il faut prendre une petite ruelle pour trouver la transformation, en fait, pour s'habituer à ce qu'on va découvrir et qui est beaucoup plus ancien.
Exactement. C'est-à-dire que avec les hôtels particuliers, nous sommes dans la ville royale du XVIIe et du XVIIIe siècle. Lorsque l'on vient vers la Maison des Comtes du Perche, qui est un titre donné à cette maison tout à fait fantasque, puisque les Comtes du Perche n'ont jamais habité Mortagne et n'ont jamais eu de château à Mortagne et jamais d'hôtel particulier à Mortagne. Donc... nous allons quand même parler de la Maison des Comtes du Perche, mais elle permet de nous introduire dans ce qu'on appelait la ville close, c'est-à-dire la ville primitive qui s'est bâtie ou qui s'est organisée autour d'un premier fort, qui lui-même, ce fort, effectivement, était dû aux besoins des premiers Comtes du Perche, des Rotrous. C'est un fort défensif pour se prémunir des invasions diverses et notamment des invasions vikings du premier millénaire. Et à partir de ce fort, vous avez un premier rempart qui est construit et la ville, ce qu'on appelle la ville close et le fort avec quelques habitations primitives, fait à peu près 1,5 hectare, ce qui est très très peu. Et de cette ancienne enceinte qui avait 3 portes d'accès et 3 portes pour rentrer à l'intérieur, vous avez notamment le portail Saint-Denis qui est accolé à la Maison des Comtes du Perche.
Ça, c'est très, très beau.
Et c'est très beau. Alors,
un des plus beaux endroits de Mortagne, je trouve.
Vous avez dit juste. Et les photos et les cartes postales, c'est le portail Saint-Denis qui
très,
symbolise
très
Mortagne.
C'est très, très joli. Et puis, je trouve que vous avez très bien mis en évidence avec ce petit jardin où l'on voit la statue d'Alain, justement.
Tout à fait.
Je trouve que cet ensemble est tout à fait remarquable.
Ça nous fait remonter les siècles. Quand on est dans ce petit îlot préservé, eh bien, on a l'impression de déambuler au Moyen-Âge ou au XVIe siècle.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Danielle Ferré, qui est adjointe au maire de Mortagne, et avec elle, nous faisons une très belle promenade dans cette ville. Nous avons donc d'abord visité les hôtels particuliers, l'hôtel des Tailles en particulier, puis la maison des Comtes du Perche, et nous allons donc maintenant, nous sommes maintenant, je dirais, dans cette ville close avec les vestiges des enceintes, les ruelles, les fossés. Et je crois que vous aviez évoqué justement cette tour dans cette ville close.
Effectivement, il faut prendre son temps et déambuler dans ce quartier ancien en regardant avec attention les maisons, les murailles, tous les vieux murs, parce que tous ces anciens vestiges se trouvent intégrés dans les habitations. Et on découvre un fragment de tour qui est intégré
dans un jardin.
Dans un jardin. On va de surprise en surprise. Ou derrière la Maison pour tous, par exemple, qui est une grande bâtisse du 19e siècle, eh bien, a été insérée l'ancienne grosse tour du rempart. Et dans cette ancienne grosse tour, eh bien, on découvre vraiment une canonnière typique du XIIIe siècle qui a été faite au moment de la guerre de Cent Ans. Sans cesse, des petites choses nous éveillent en quelque sorte aux vestiges du passé.
Alors, un très bel endroit aussi, c'est la crypte de Toussaint.
Alors, la crypte de Toussaint est le seul vestige qui reste d'un ancien monument qu'on appelait la collégiale de Toussaint, qui a été construit en 1204 par la comtesse du Perche, Mao de Bavière. Mao de Bavière était mariée avec Geoffroy V, un descendant des Rotrou, puisque les Rotrou, c'était Rotrou ou Geoffroy.
Voilà.
Et là, nous sommes avec Geoffroy V, l'un des derniers Rotrou. Et Rotrou s'engage pour les croisades et meurt juste avant de partir pour la cinquième croisade, je crois. Et à ce moment-là, Mao de Bavière, qui est une toute jeune femme, va décider de lui vouer une église, l'église de tous les saints, d'où le nom collégiale de Toussaint. La collégiale de Toussaint était une très très belle église du début du XIIIe siècle, mais elle a été détruite au moment de la Révolution française, puisque vendue à un marchand de salpêtre, et de là elle a servi à la fois de salpêtrière et de carrière de pierre.
Alors ça venait jusqu'où alors dans la... Jusque sur la place ?
Jusque sur la place, c'était certainement une église importante. Et c'est plutôt l'imagination qui la reconstitue.
Ah oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a une maquette à l'entrée de la crypte de Toussaint qui permet de la concevoir. Mais ne croyons pas que nous sommes devant quelque chose de vraiment authentique.
Ah oui.
Je pense qu'il faut être raisonnable. On peut se l'imaginer, mais très difficile puisqu'on a, quasiment pas de gravure.
Oui, oui, hein? Oui.
La crypte de Toussaint a été exhumée il y a à peu près 40 ans. Elle était complètement enfouie, on savait qu'elle existait, mais on peut rendre hommage à Mademoiselle Guérini, qui a vécu à Mortagne à la fin de sa vie, et qui, grâce à elle, a créé un chantier pour exhumer et
elle qui avait fait ça.
Et qui a permis de faire revivre cette crypte de Toussaint, seul vestige de la cathédrale.
Alors, il y a, bien sûr, l'église Notre-Dame. Ça, c'est un joyau de Mortagne.
L'église Notre-Dame est très, très belle. Même aujourd'hui, après les malheurs qui lui sont arrivés à cause du clocher détruit deux fois, en quelque sorte, l'église Notre-Dame a été construite grâce au don de Marguerite de Lorraine au lendemain de la guerre de Cent Ans. Les Mortagniers sont désolés parce qu'ils n'ont pas d'église paroissiale, ou du moins les Mortagniers qui habitaient dans le centre-ville n'avaient pas d'église à eux. Donc, ils supplient la comtesse Marguerite de Lorraine de leur faire don et de les autoriser à construire une église. Donc, on a une église du gothique flamboyant, fin 15e siècle, qui est tout à fait typique de ce que Marguerite de Lorraine soutiendra comme architecture. Tout est beau dans cette église. En particulier la façade nord au point de vue extérieur avec le portail des comptes. Mais bon, aujourd'hui, la maladie de la pierre, la fragilité du calcaire estompe un petit peu l'ensemble des sculptures, même si c'est resté encore très beau. Mais à l'intérieur, c'est un véritable joyau, comme vous dites.
Les vitraux.
Les vitraux et la voûte. La voûte est vraiment une splendeur. Alors, il faut savoir que chaque retombée d'arc doubleau se termine par des petits anges musiciens. Donc, on a 67 anges musiciens qui sont sculptés, chaque ange musicien faisant un instrument de musique différent. Et le sculpteur, ne connaissant que 64 instruments de musique, a inventé les trois derniers.
Ah, je ne connaissais pas ça.
Et je conseillerais à toute personne voulant visiter vraiment l'église d'amener des jumelles, parce que c'est vraiment très très beau. Moi, personnellement, je vais dans la tribune de l'orgue, mais c'est quand même un privilège. Mais sinon, c'est vraiment
avec des jumelles
qu'on peut savourer la qualité des sculptures. Autre splendeur, les vitraux. Les vitraux, on peut dire que ces vitraux du XVIe siècle, il n'en reste pas beaucoup, puisque certains ont été démontés, d'autres ont été détruits, tout ça. Mais il reste cependant un vitrail absolument magnifique, c'est celui de Salomé, la danse de Salomé, qui porte et qui offre à Hérode la tête de Saint Jean-Baptiste. Alors, c'est un vitrail typique du XVIe, avec des coloris tout à fait exceptionnels. La beauté des rouges et des jaunes font que vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et pour les personnes qui sont passionnées de vitraux, eh bien, il faut aller imaginer le reste de l'église tel qu'on les voit, ces vitraux de la même époque et commandités par la même personne, Marguerite de Lorraine, à l'église d'Alençon, Notre-Dame d'Alençon, où là, vous avez un ensemble de verrières exceptionnelles et qui viennent d'être restaurées. Ça a coûté 2 millions d'euros, mais c'est une véritable splendeur.
Il faudra nous emmener à Alençon aussi, alors, parce que moi, je ne connais pas cette église et ce serait vraiment une bonne idée pour Radio Grand Ciel de visiter l'église d'Alençon avec vous.
Oui, oui. Alors, nous en reparlerons parce que je sais que le temps est court, mais disons que les vitraux de Mortagne devaient ressembler, l'ensemble des vitraux de Mortagne devaient ressembler à l'ensemble de ces verrières de Notre-Dame d'Alençon, puisque nous sommes à la même époque, la même personne qui commandite tout cela et certainement les mêmes artistes.
Nous disions joyaux, effectivement, pierre, vitraux et puis les boiseries.
Les boiseries. Alors, les boiseries sont arrivées dans cette église de Mortagne de façon exceptionnelle, puisque ce sont des boiseries issus de l'abbaye du Val-Dieu. Oui. Et les paroissiens, les mortagniers, les percherons, étant désolés du vandalisme qui était fait sur l'abbaye du Val-Dieu, ont essayé de sauver ce qui pouvait être sauvé. Et ils ont pris les autels, les tapisseries, les tableaux et notamment aussi les boiseries qu'ils ont installées dans le cœur de l'église de Mortagne et dans la sacristie.
Oui.
L'ensemble est vraiment magnifique. Ouais. C'est des sculptures en chêne qui, du moins dans le cœur, relatent à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
N'oublions pas non plus les orgues, parce que quand il y a un concert dans cette église, c'est sublime.
Oui. Nous avons à la fois une très bonne sonorité et une bonne acoustique, mais aussi un orgue exceptionnel qui n'est pas très vieux puisque c'est un Cavaillé-Coll qui a été récemment restauré, ce qui nous permet d'organiser des concerts ou d'accueillir des organistes désireux de jouer dans notre église.
D'ailleurs, à la fin de la messe, quand on entend ça, on est bouleversé. Hein.
C'est toujours aussi beau.
Toujours, oui.
Et on a la chance d'avoir beaucoup d'organistes en ce moment.
Ah oui.
On a au moins 4-5 personnes qui aiment bien venir jouer sur l'orgue de Mortagne, qui sont inscrits pour animer les offices également. Et nous avons aussi régulièrement Jacques Boucher, qui est un très grand organiste canadien,
oui,
qui aime venir nous rendre visite et jouer sur l'orgue de Mortagne.
D'ailleurs, j'ai assisté à justement ce concert avec des Canadiens et c'était vraiment une très belle soirée. À Mortagne, vous avez le génie également de savoir mettre dans vos monuments les concerts qu'il faut, les expositions, parce que nous ne l'avons pas dit, mais dans la crypte, il y a aussi eu des expositions de sculptures et c'était impressionnant, je dois dire.
Dans la crypte, il y a des expositions, surtout dans le cadre du Forum des Arts, par exemple,
oui,
qui redonnent vie, qui permettent d'animer ces vieux monuments. Et de ce fait, je parlerai également du cloître.
Oui, alors très rapidement, juste pour donner envie d'y aller, parce que le temps passe très vite ici.
Eh bien, corrélativement avec l'église Notre-Dame, disons que Marguerite de Lorraine a créé le couvent Saint-François pour des Clarisses et il reste de cet ancien couvent un cloître absolument fabuleux. De par sa sobriété en granit et en bois, il n'y a aucun décor. Il y a une authenticité et un climat ou une ambiance méditative tout à fait propice au recueillement. Et certainement que les prières devaient aller très très haut.
Eh bien, Daniel Ferré, un grand merci. Je crois que nous avons fait une belle promenade dans Mortagne. Nous aurons certainement à cœur d'y retourner et même d'aller jusqu'à Alençon, puisque les vitraux y sont aussi très beaux. Un grand merci à vous. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réécouter notre émission en faisant www.radiograndciel.fr. Merci, Daniel Ferré.
Merci à vous.